Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québécois. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
C'est au tour de la CSQ de se lancer en grève générale illimitée et ce, dès le 9 décembre. Donc, jeudi prochain, il faudra que des parents additionnels au Québec se trouvent un plan B. La Fédération des intervenantes en petite enfance, la FIPEC, qui sera en grève.
Alors que la CSN va déjà être à sa 7e journée de grève, 7e journée de grève à ce moment-là.
Oui, donc ça s'accumule quand même, ce casse-tête qui devient assez pénible pour bien des parents. Et ce, pour combien de temps? C'est dur à dire en ce moment, parce que le conflit s'étire. Je vais vous faire entendre d'ailleurs aujourd'hui, parce que ça a été un peu retardé de quelques heures du moins, cette annonce du déclenchement de la grève générale illimitée, parce qu'on a convoqué les trois syndicats qui représentent les travailleuses en CPE pour une tentative d'en arriver à une entente. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui a affirmé avoir rejoint les objectifs, les priorités des syndicats, d'avoir faire 11% pour les employés de soutien dans les CPE. Par contre, Sonia Lebel dénonce que, selon elle, les syndicats ont augmenté leur demande, alors que le 11% fonctionne avec leur demande des derniers mois. Ben là, leurs demandes sont rendues à 13 ou 14%. Elle dénonce cette façon de négocier des syndicats. Je vous fais entendre Sonia Lebel là-dessus.
J'ai jamais, jamais, jamais vu une négociation de ce genre. Les syndicats, présentement, négocient à l'envers. Je sais plus ce qu'ils veulent, parce que si j'avais négocié comme ça, comme procureur de la Couronne, là, puis que je montais ma demande de sentence à chaque fois qu'un avocat de la défense m'offrait un plaidoyer, je veux dire, j'aurais passé mon temps à faire des procès, là.
Au syndicat, on confirme que bel et bien ce chiffre-là, le pourcentage a augmenté, mais on affirme jouer dans le même carré de sable, la même braquette.
C'est-à-dire qu'on a cédé d'autres demandes qui représentent les mêmes millions. Mais toi et moi, en termes de stratégie syndicale, ça paraît mal quand même. Là. T'as-tu déjà entendu parler de ça? Tu sais, les pourcentages. Je comprends que t'as toutes les autres petites demandes à côté, oui, que tu peux laisser tomber, là. Mais tu sais, les pourcentages. Mettons, le gouvernement offre 6, puis toi, le syndicat, tu demandes 12. Bon. T'sais, la logique populaire, c'est que tu vas te rejoindre à 9. Là. Puis là, maintenant, toi, tu vas descendre de 12 à 11, puis l'autre va monter
à 10, t'as gagné. Si ouais, le gouvernement a 8, on gagne. Non, c'est
mais,
ça.
Mais qu'une des parties, en cours de route, augmente ses pourcentages, tu te dis, mais là, on pourra jamais se rejoindre, là.
Oui, surtout
que... Là, t'es rendu à 13. Comment tu dis, là, l'autre t'en rejoindra jamais, là.
Surtout qu'on dit, on est dans la même enveloppe. Mais ce que tu mentionnais plus tôt, ce qui inquiète le gouvernement, c'est qu'ensuite, ce pourcentage-là, on le demande partout.
Donc, ben c'est oui, parce que le gouvernement, qui est le problème. Exactement. Et toutes les autres petites bébelles que tu vas avoir laissé tomber, là, que le syndicat dit, ah, je te donne des économies, je demande plus tel congé, mais tout ça, ça va se perdre dans la stratosphère. Alors que les syndicats qui représentent des travailleurs équivalents dans d'autres ministères vont dire, hey, eux, ils ont eu 13%, là. C'est ça qui va être retenu, là.
Le gouvernement serait probablement plus flexible sur les bébelles, justement, sur le
peut-être,
reste que le pourcentage.
Peut-être, à
la
limite, peut-être pas non plus, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être... Tu sais, le syndicat commence aussi, une bonne négociation d'un bon syndicat, tu commences avec des demandes exagérées, parce que tu sais que... Ça prend du jeu. Si on laissera tomber ça, à mi-chemin, puis ça, au trois quarts. Il y a des affaires que tu mets dans l'égo pour les laisser tomber, là.
D'ailleurs, on comprend que le syndicat est pas d'accord avec tout ça. Je vais faire entendre Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, qui explique que, au contraire, selon eux, ils ont baissé au fil de l'année, là, l'enveloppe, le coût de ces hausses de salaire et d'avantages. Je vais entendre Valérie Grenon là-dessus.
Hier, dans un but ultime de clore la négociation, nous avons fait un nouveau mouvement vers le gouvernement. Nous avons à nouveau réduit notre demande de 31,6 millions. Au total, depuis février, La FIPEC-CSQ a donc fait des mouvements de plus de 86 millions. Madame Lebel a le droit de dire que ce n'est pas assez, mais prétendre qu'elle est la seule à négocier, c'est de la mauvaise foi et de la démagogie pure et simple.
En d'autres termes, si on considère que ça négociait toute la nuit, puis qu'aujourd'hui, ça s'invective chacun de leur tour en point de presse, on est plus loin que jamais d'une résolution de conflit. Et tout indique que la semaine prochaine, les deux syndicats de représentants des employés de CPE vont être en grève générale illimitée. Le Parlement, ils vont pas tomber en grève jeudi. Le Parlement, techniquement, ferme jeudi ou vendredi. Est-ce qu'on va voter une loi spéciale jeudi ou vendredi? Moi, ça m'étonnerait. Donc, si on quitte, mettons, le vendredi, soit le jeudi le 9 ou vendredi le 10, on quitte, les députés quittent pour le temps des fêtes, là. Là, ça prendra un rappel. Pour faire une loi spéciale, ça prendra un rappel de la Chambre, un rappel spécial, là, entre Noël puis le jour de... Ça arrivera, je... Donc, c'est pour ça que je répète, pessimiste, désolé pour les parents, que ce conflit est mal barré, qu'il est à haut risque de durer longtemps.
Parce que là, si on est à 11 %, on devient quand même proche, là, que le gouvernement cède puis ils disent, bon, on va vous donner les 13, puis on... Là, ils peuvent plus.
Oublie ça, là. C'est déjà, moi, j'en reviens pas. Ils ont déjà bougé, c'était 9, puis ils ont monté à 11, là.
Oui.
Donc, je pensais que 9, c'était final. Déjà, je trouve que le gouvernement en rajoute. Mais là, je pense qu'il y a un point de rupture. Non, moi, je vois plus le... Je suis pessimiste avec ce conflit depuis des semaines. Puis, sais-tu, je suis pessimiste. Je pense qu'il va y avoir une grève depuis des semaines. Puis, ça se déroule pire que mon pessimisme, finalement.
Le nombre de cas de COVID au Québec est en hausse. Encore une fois, 1355 nouveaux cas cette fois, ce qui est bon plus qu'hier, plus qu'avant-hier, où on avait des
plus
hausses
que
également.
Plus que vendredi.
Oui, vendredi passé, on était à 1037. Alors, un bond toujours là, qu'on
mais
bon,
c'est,
qu'on,
toi, qu'on c'est 30 % de plus. Là,
ouais, absolument. De plus deux décès, trois hospitalisations de plus, quatre personnes de plus aux soins intensifs. Donc, toutes les données sont à la hausse au Québec aujourd'hui. Pendant qu'on surveille toujours Omicron, là, donc ce nouveau variant qui s'installe un peu partout à travers le monde, l'OMS aujourd'hui identifiait 38 pays où on a des cas d'Omicron confirmés. On comprend qu'il y en a probablement déjà bien plus. Aucun décès, par contre, de confirmé encore là.
Non, mais dans les dernières minutes, j'ai vu une dépêche sortant d'Afrique du Sud où ils disent que là, ils commencent à voir rentrer les gens. Une hausse rapide, abrupte des hospitalisations.
Parce qu'il faut dire, la hausse de cas, elle est vertigineuse. Là. Lundi, on parlait de 2273 nouveaux cas. Et ça a monté tout au long de la semaine, 4000, 6000, 8000 hier, 11000 et aujourd'hui 16000 nouveaux cas. Donc, on est passé de 2 à 16000 en l'espace
dans
de
semaine.
5 jours. C'est vraiment, vraiment inquiétant, surtout dans le secteur de Johannesburg, la capitale Pretoria aussi, qui sont les plus touchés. On parle quand même pour la grande majorité de symptômes légers, là, ce qui amène à voir est-ce que c'est plus contagieux, moins dangereux, surtout des informations qu'on attend. L'OMS dit ça prendra encore quelques semaines avant de clarifier tout ça, le niveau de dangerosité, degré d'infectiosité, la résistance au vaccin. Alors, plein de points d'interrogation encore.
Et on va aussi comprendre mieux, c'est triste ce que je vais dire, on va aussi comprendre mieux Omicron quand Omicron sera rentré dans une résidence pour aînés. Là.
Dans
un groupe ou dans...
Parce qu'en Afrique, on parle vraiment de population assez
plus jeune.
Il y avait eu
clairement.
Des festivités ces temps-ci de l'année chez les, on dit, 10 à 30 ans à peu près. Donc, c'est beaucoup eux qui ont Omicron en ce moment.
La première médecin qui en avait identifié des cas disait que c'était principalement des gens de moins de 40 ans. Là. C'est plus dur de se faire une idée. Même les premières formes de la COVID, quand t'étais chez des gens de moins de 40 ans, t'avais moins de malades, peu d'hospitalisation. Donc, c'est difficile. On aurait une meilleure idée si on rentrait dans une population plus âgée, dans un groupe ou dans une résidence. Ou...
Malgré ces inquiétudes-là par rapport à Omicron, mais la baisse de l'efficacité des vaccins, même sans Omicron, inquiète au Canada, de sorte qu'aujourd'hui, le Comité consultatif national sur l'immunisation a élargi sa recommandation pour la troisième dose. On sait que l'Ontario avait baissé l'âge pour la troisième dose à 50 ans plus tôt cette semaine. Au Québec, on est à 70 ans et plus toujours. Mais là, le Comité consultatif dit tous les adultes de 18 ans et plus devraient avoir une troisième dose. Ce n'est pas lié à l'émergence d'Omicron, mais vraiment parce parce que les données probantes sur l'efficacité des vaccins montrent une baisse d'efficacité après 6 mois. Donc, on voudrait les 18 ans et plus une troisième dose et le conseiller fortement aux 50 ans et plus qui, eux, en auraient un bénéfice encore plus grand. Selon le Dr New de l'Agence de santé publique, c'est un bon moment là, avant les fêtes, pour surtout pour les personnes plus âgées, plus vulnérables, avoir leur troisième dose avant les réunions des fêtes. Alors, pour plusieurs, je vois des experts qui disaient bientôt, là, être pleinement vacciné, ce sera 3 doses. Alors, on se rapproche de plus en plus de ça.
En France, je pense que c'est la semaine prochaine que les personnes de 60 ans et plus qui n'auront pas leur, qui n'auront pas pris leur booster, qui n'auront pas pris leur troisième dose, vont voir désactiver leur passeport vaccinal. Donc, là-bas, ils l'ont rendu obligatoire, là.
Et, il y a les vaccins et il y a les pilules dans les médicaments qui vont arriver bientôt, entre autres Pfizer, Merck, qui sont à faire approuver leurs pilules anti-COVID. Donc, pour vraiment, lorsqu'on a la COVID, qu'on est malade, pour pouvoir éviter l'hospitalisation ou la mort, Ottawa a signé 2 ententes pour recevoir 1,5 million de ces pilules pour traiter les symptômes liés à la COVID-19. Donc, une entente avec Pfizer, qui a fourni la majorité des vaccins au pays, prévoit donc l'arrivée d'1 million de ces traitements assez rapidement. Merck, c'est 500 000 de ces capsules. Alors, ça pourrait venir compléter les outils contre la COVID.
C'est pas miraculeux quand même. C'est pas décevant, là. On l'avait pas avant, on n'avait rien, mais tu sais, mettons, on meurt, qu'ils disent quoi, entre 30 et 40%. Donc, t'as la COVID, t'es une personne à risque, on te donne le médicament, les chances que tu aies des formes graves de la maladie diminuent de 30 à 40%. Je veux dire, c'est sûr que si j'étais dans cette catégorie-là, je le prendrais. Je prends. 30%, 40%, c'est mieux que rien. Mais c'est quand même, c'est un effet limité, là. Tu sais, c'est un outil de plus dans l'arsenal, là, mais c'est pas, c'est pas la pilule miracle à laquelle on aurait rêvé, là.
Toujours dans le domaine de la santé, mais aujourd'hui, Christian Dubé annonçait son projet de loi 19 pour améliorer l'accessibilité de l'information, le partage des données dans le milieu de la santé, partout dans le réseau. On sait à quel point on fonctionne de façon archaïque avec carrément des copies papier, dossiers papier, des fax. Faut passer à autre chose, là, selon Christian Dubé, qui déposait aujourd'hui à l'Assemblée nationale ce projet de loi visant une circulation plus fluide et sécuritaire des renseignements de santé et de services sociaux, valoriser ces données, les rendre accessibles à nous-mêmes pour pouvoir consulter ces dossiers, de sorte que peu importe les intervenants en santé, peuvent accéder à ce dossier-là, y ajouter de l'information. On peut voir qui a accédé aussi, alors on peut repérer s'il y a eu un problème. Et quand on parle de valorisation, c'est de pouvoir donner accès aux chercheurs à cette mine d'or d'informations que serait donc ce dossier santé québécois pour pouvoir faire des recherches, donc faire avancer des meilleurs soins de santé. Je vais vous faire entendre Christian Dubé là-dessus qui donnait des exemples un peu de l'utilité de ces nouveaux outils qu'on veut amener au Québec.
Pour moi, d'être capable d'avoir l'information sur le retard des chirurgies, d'être capable d'être connecté non seulement sur tous les établissements, de savoir où sont les chirurgies qui sont en retard, avec quel type de spécialité, parce que c'est pas pareil dans toutes les régions. Un bel exemple de ça, on est en train de regarder pour rattraper le retard dans les chirurgies. Alors, quand vous me dites qu'est-ce que ça peut donner, c'est d'être capable de dire, on continue d'avoir une gestion locale, des données locales, mais on les regarde sur une base nationale.
Ce qui est un peu une confirmation que depuis des années, là, les ministres de la Santé, les sous-ministres, les gens en haut savent pas ce qui se passe dans le réseau. Ils gèrent sans savoir ce qui se passe dans le réseau. Tu vois, chez Walmart, là, le PDG, là, à son siège social, là, il sait ce qui se vend au Walmart de Matane.
Oui. À tous les jours, il y a un résumé assez précis de tout ce qui s'est passé.
Ce qui se vend, ce qui se vend pas, les ventes, la semaine a été mauvaise, c'est tout ce qui se passe en temps réel, les ventes en ligne augmentent, les ventes de... Alors que le ministre de la Santé, il n'a aucune idée de ce qui se passe dans son réseau.
Non, effectivement.
Platement dit, là, c'est ça.
Il y a la question de la sécurité rendue là. Un responsable de la protection des renseignements va être nommé, va surveiller ça, il y aura des dispositions pénales si on ne respecte pas la façon de faire, pour d'enquête et de surveillance aussi.
Mais ce qui m'a intéressé aussi, du ministre de la Santé, c'est toute la question des tests rapides. Parce que là, il en a commandé 10 millions d'Ottawa.
Oui, on attend, donc on les veut rapidement. On met de la pression d'ailleurs sur Ottawa, rappelant qu'on est un peu tributaire et donc du gouvernement fédéral, comme on l'était avec les vaccins, on l'est avec les tests rapides. Puisque, tu en parlais dans ton texte ce matin, là, on veut distribuer des millions de tests aux familles québécoises avant les fêtes, entre autres. Donner par exemple un paquet de 5 là, par famille pour pouvoir tester les membres d'une famille. Est-ce qu'on pourrait les vendre en en pharmacie sont l'envisage.
Mais il y a deux affaires. Je pense qu'il y a deux affaires en parallèle. On va essayer de démêler ça pour les gens. Le gouvernement, lui, il obtient du fait. Le gouvernement du Québec veut obtenir du fédéral des tests rapides gratuits. Il revendra pas. Donc ceux-là seront gratuits. Exemple, la Saskatchewan les distribue par les pharmacies. Mais c'est pas en vente ces tablettes. C'est le gouvernement qui les donne gratuitement et qui utilise le réseau des pharmacies comme un réseau de distribution pour pas les. Ouais. Pour pas
le Nouveau-Brunswick aussi donne des tests gratuits
à différents endroits, des points de collecte. C'est ça. Donc, le Québec veut faire ça. Moi, je suis une coche plus loin. Je me dis, OK, là, on a des tests gratuits, mais pas obligé d'avoir tout gratuit. Je veux dire, présentement, là, on est le seul pays industrialisé où il se vend pas de tests. Mettons, le gouvernement en donne 5 par famille, mais moi, j'en veux 13. Là. Je veux dire, pourquoi c'est pas... C'est quelque chose qui existe, une marchandise là, qui se produit par millions, par dizaines de millions. Pourquoi c'est en vente en France? Pourquoi c'est en vente au Royaume-Uni? En Allemagne, je le souligne ce matin dans mon texte, c'est même dans les supermarchés. Ils ont dit, la pharmacie est trop compliquée. Ça coûte 3-4... En équivalent de dollars canadiens, c'est 3-4 piastres au supermarché.
Donc, tu fais ton épicerie, tu te prends quelques tests.
Puis, t'as une petite vidéo. Là, des vidéos sont tout partout. Là, ils distribuent tout partout. Là-bas, le ministère, le gouvernement, YouTube, les compagnies, là, tout le monde se bat pour des vidéos de 2 minutes qui montrent comment faire le test. À moins d'être complètement innocent, t'es capable de copier ce que tu vois sur YouTube. Là.
Ouais, mais j'ai déjà, on va dire, ouais, mais les personnes qui n'ont pas les moyens sont désavantagées.
Je suis pas à dire qu'il en faut pas des gratuits. Mais les personnes qui n'ont pas les moyens, je veux dire, à ce compte-là, qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des Tylenol, la pharmacie des produits à... Tu sais, si ça valait 700$, je te dirais, Vincent, c'est un problème, là. Mais à mesure où les tests sont à moins de 10$, la pharmacie est pleine de produits à moins de 10$, puis c'est pas drôle pour les gens qui n'ont pas les moyens, mais ils ont un budget, puis à un moment donné,
Et les tests PCR sont gratuits encore
aussi. Sont gratuits. On peut fournir des tests gratuits par l'école, mais je veux dire,
mettons, tu fais un brunch, là, puis là, tu dis, ben,
on invite des personnes plus âgées.
50$, puis je vais tester tout le monde. Ben, ça va rassurer tout le monde.
Parce qu'il y a des personnes âgées qui vont venir, puis dans le groupe, il y en a une couple qui travaille dans le public, travaille dans le commerce, un autre est allé dans un bar avant hier, il a dansé, il y en a qui sont pas sûrs, j'ai peut-être attrapé. On prend pas de risques. Mais je pense qu'il y a bien des gens qui seraient prêts à payer 10$ pour la paix d'esprit, là. En tout cas. Je sais, c'est toute la philosophie au Canada, un peu dans la pandémie, que moi, ce matin, dans mon texte, je fais le parallèle avec le masque, là. Ah, si on allait porter le masque, là, on allait se contaminer, on allait se rentrer. Là, notre collègue du Trisac fait déjà des jokes avec ça, les doigts dans le nez, les doigts dans les yeux. Finalement, le masque, finalement, quand on a autorisé le masque, là, voyons, il n'y a rien arrivé de ça. Là, les gens se mettent le masque. Je ne dis pas que tout le monde le met bien, il y en a qui met. Dans l'ensemble, là, le masque, il est très utile. Mais ben, pourquoi le test rapide? Probablement qu'il y a des gens qui vont mal l'utiliser sur le lot ou qui regarderont pas la vidéo, mais ça, on va-tu vraiment s'empêcher, s'enlever un outil pour pourcentage de mauvais utilisateurs?
Non, je pense. On vend des thermomètres, même s'il y en a qui...
Ils savent pas dans quel trou se le mettre, c'est ça?
Exactement.
Tout savoir en 24 minutes.
Bon, dossier sur la violence par arme à feu, où il y aura des millions investis en prévention. Parce qu'on a beaucoup parlé de ces événements à Montréal, des opérations policières. On sait que le gouvernement investit massivement dans l'opération Centaure pour aller justement frapper dans ces ventes d'armes à feu, les gangs de rue. Mais à chaque fois, on rappelle, il faut des moyens aussi en prévention pour éviter que des jeunes prennent de mauvais chemins. C'est ce à quoi veut s'attaquer la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, avec un investissement qui sera annoncé, on dit dimanche, là, pour des millions, 50 millions de dollars en prévention. On avait déjà, je parlais 100 millions pour l'opération Centaure, un montant de 46 millions était identifié dans le mini-budget pour augmenter les efforts en prévention de la criminalité. Ça devrait être donc un peu plus de ça. Geneviève Guilbeault disait aujourd'hui, la prévention, ce n'est pas demain matin, c'est sur le moyen-long terme, mais c'est un travail donc qui devrait être fait. C'est important de lutter aussi contre les fléaux qui sont à l'origine du problème, c'est-à-dire les inégalités sociales, la nécessité d'aider nos jeunes en amont. Alors, on est en attente d'ailleurs avec d'une rencontre avec l'homologue fédéral pour pouvoir discuter de ce qu'il y a à faire en prévention.
Tout ça pendant qu'il y a eu aujourd'hui. Hier soir, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on constate un autre meurtre à Anjou hier soir.
Effectivement, d'ailleurs, sur ce dossier-là, à Anjou, Geneviève Guilbeault s'est dit tout à fait attristée par ce qui s'est passé. Elle était si triste, offrant ses condoléances à la famille et aux proches de la victime, ce jeune de 21 ans.
Ce matin, j'ai parlé au maire d'Anjou. Je vais être poli, je veux dire qu'il n'est pas impressionné par la façon dont Valérie Plante, la mairesse de Montréal, lutte contre la criminalité et pour la sécurité dans les rues.
Bon.
Il est sceptique.
Sceptique.
Mettons, pour rester poli.
Toujours dans le milieu criminel, revenir sur Mamadou Kalilou Barry, là, ce jeune qui a été arrêté hier par les enquêteurs du service de police de la ville de Québec, qui a été officiellement accusé d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes de 15 ans avec deux complices allégués. On s'est opposé chez le poursuivant à sa remise en liberté. Rappelez que c'est lui qui donnait des entrevues médiatiques pour dénoncer la brutalité policière là, dont aurait été victime son ami Pacifique Niokwizera, qui était justement
présent.
Ouais, il était dans le groupe où les policiers sont intervenus pour du désordre. Ce dossier-là se poursuit parce que le SPVQ cherche d'autres victimes. On sait que lui a été arrêté hier. On peut le nommer parce qu'il est majeur, mais il y avait deux complices mineurs. Et probablement que ce trio-là aurait pu faire d'autres victimes, de sorte que la police de Québec recherche de l'information pour les tracer.
Un trio qui commet conjointement une agression sexuelle. J'ai pas tout le descriptif des policiers, mais c'est ce qu'on appelle généralement un viol collectif.
Oui, c'est ce qu'on soupçonne. Ouais.
C'est une agression sexuelle d'un autre niveau qui nous donne à penser qu'on est dans d'autres types de criminalité, pas juste un violeur là, d'un coin de rue, mais qu'on est avec des mineurs, qu'on recrute des mineurs, est-ce qu'on est dans le proxénétisme? Je peux pas l'affirmer, mais on a des raisons de craindre ça, là. Pour moi, ça jette tout un nouveau regard sur ce qui s'est passé à la sortie du Dagobert. Là. Complètement. Un nouveau regard. Ça ne justifie pas un travail policier mal fait. L'enquête doit se continuer pour s'il y a eu du travail policier mal fait, des méthodes policières non avenues. Mais si les policiers savent intervenir auprès d'un groupe de jeunes, parmi lesquels il y en a qui sont dans des activités de cette gravité-là, qui font des victimes aussi graves que des jeunes filles, tu te dis, OK, les policiers doivent rester professionnels, mais tu comprends le ton ou tu comprends l'attitude.
Si tu interviens avec un groupe criminalisé, c'est peut-être différent aussi d'un
groupe d'étudiants, là.
Ouais, exact.
Bon, l'autre affaire, c'est que, j'ai revu aujourd'hui, quelqu'un m'a parlé de ça, il y a un GoFundMe. Bon, le GoFundMe, il est pour Pacifique, qui serait victime de brutalité policière. Mais là, attends un peu, là. Qui gère le GoFundMe exactement? Y a autour de cette histoire-là, en tout cas en marge de cette histoire-là, un groupe dont certaines activités sont parmi les plus détestables de la société, là, recruter des jeunes filles, les agresser sexuellement, des viols collectifs, puis des spécialistes de ça disent les viols collectifs, c'est la façon de casser les filles, là, de leur enlever leur dignité, puis tout ça. Prudence, je sais pas, moi, il me semble.
Est-ce qu'on peut attendre peut-être?
Prudence au GoFundMe, là? Prudence? Grande prudence?
Encore là, les policiers doivent toujours arrêter de faire. Mais il y a quand même. On pourrait avoir tout le contexte.
Ouais, là, les policiers nous donnent des informations parcellaires, d'autant plus qu'on a deux personnes qui étaient mineures au moment des agressions, donc dont on doit pas dire les noms. On peut pas connaître les noms. Le public, ce qu'on.
Parce que demain, il y a une marche là, dans la ville de Québec, entre autres. On verra si ces éléments-là amènent un changement de ton. On verra. On attendra les détails, les enquêtes sont en cours. Toute une histoire, Mario, aux États-Unis. Là, on a parlé de cette fusillade. Là, Ethan Crumbly, un jeune de 15 ans qui est entré dans son école tiré sur des jeunes, là, faisant plusieurs victimes. Mais là, c'est de ses parents qu'on parle aujourd'hui, puisque ses parents ont été accusés d'homicide involontaire.
Je t'avoue que j'ai reçu l'alerte sur mon cellulaire, là, disant, je me suis demandé, mais les parents... À première vue, on se dit, les parents, c'est pas de leur faute. Comment t'es accusé d'homicide involontaire? Et on comprend en découvrant les détails.
Oui, parce que là, on est vraiment à un niveau que j'avais jamais vu, là. James Crumbly, le père, qui avait acheté le vendredi précédent la fusillade, le jour du Black Friday, des promotions du Black Friday, un pistolet semi-automatique à son fils, qui l'a utilisé parce qu'il avait
de 15 ans.
Oui, à son fils de 15 ans, qui avait pas le droit d'avoir de s'acheter une arme. Alors, son père lui a acheté en cadeau au Black Friday une arme à feu. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux là publient des images appelle ça son espèce de nouveau précieux là cette arme là et un peu avant la fusillade des professeurs l'ont vu en train de magasiner des munitions sur son téléphone le jeune
à l'école
et semble que sa mère lui ait texté lol je suis pas fâché apprends juste à pas te faire prendre Donc, sur le fait qu'il
magasine... Parce que l'école avait averti les parents, ouais, ça n'a pas d'allure. Ouais. Il magasine des munitions.
Des munitions en classe. Et le jour de la fusillade, Ethan est convoqué avec ses parents par la direction de l'école secondaire, donc au Michigan, où c'est arrivé, parce qu'il écrivait là, sur une feuille avec des dessins, aidez-moi, ma vie est inutile, le monde est mort, du sang partout. Alors, une œuvre très, très violente, suicidaire, même carrément, là, un appel à l'aide. Alors, ils ont rencontré les parents avec le jeune en disant là, vous devez envoyer votre jeune voir un spécialiste. Ça va pas du tout.
Puis à ce moment-là, son arme?
L'arme que son père lui a achetée est dans son sac
à dos.
Les parents vont refuser de l'envoyer chercher de l'aide. Et plus tard dans la journée, il va sortir son arme et ouvrir le feu sur ses camarades de classe. Donc, les parents sont accusés parce qu'ils sont pas intervenus malgré tous les drapeaux rouges de l'école, n'ont pas vérifié qu'il était en possession d'une arme, parce qu'ils savaient qu'il lui avait donné une arme qui était visiblement suicidaire et dangereux. N'ont pas vérifié. Est-ce que tu l'as, ton arme? Il est où, ton arme? Est-ce qu'il est dans ton sac, ton arme? Ça amène à cette mise en accusation-là. Et les parents sont en fuite. Maintenant, alors, chasse à l'homme aux États-Unis pour retrouver ce père et cette mère qui sont accusés après la fusillade de leur fils. Donc, vraiment, là, écoute,
histoire assez pathétique. Étourdissant. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.